Je vous disais la dernière fois que cette question 16 est une question sur laquelle on peut aller très rapidement. Si vous voulez, je vais simplement voir avec vous l'article 1er. Et puis l'article dernier. Puis nous passerons tout de suite à la question 17, qui est beaucoup plus importante et qui est une question difficile et très discutée aujourd'hui. Alors, peut-on dire avec vérité « Dieu est homme » ? Mais c'est toute une question de logique, hein, de logique d'ordre théologique. La logique ne change pas. Il n'y a pas une logique chrétienne et une logique non chrétienne. Jésus dit « est, est, non, non », ce qui implique justement le jugement d'existence. Ceci est, et ceci n'est pas. Et que toute la logique est fondée sur le jugement d'existence. Du moins, la logique aristotélicienne, pas la logique moderne. Puisque la logique moderne, c'est de l'ordre des possibles. C'est pour ça qu'elle ne nous intéresse pas directement en philosophie. Mais la logique est la même en philosophie et en théologie. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a l'application à un nouveau domaine. Et c'est pour ça que, de fait, il y a certains problèmes qui peuvent se poser. La logique nous permet d'avoir un langage correct. Donc d'empêcher, dans certaines choses qui ne soient pas très correctes, d'engendrer l'erreur. La logique est au service de la vérité théologique, et donc en définitive de la vérité de la foi. Et c'est pour ça que saint Thomas a toujours un souci très grand de bien préciser ce point de vue-là, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. On l'a très peu aujourd'hui, très très peu. Pas l'Église, mais beaucoup de théologiens. Beaucoup de théologiens ayant un langage qui n'est plus tout à fait au niveau métaphysique, qui est un langage au niveau beaucoup plus de la vie, au niveau psychologique, au niveau phénoménologique, le langage est beaucoup moins précis. Alors, ce premier article, vous allez tout de suite voir, il semble que l'on ne puisse dire « Dieu est homme ». Car toute proposition affirmative en matière éloignée est fausse. In materia remota, es falsa. Or, telle est précisément la proposition « Dieu est homme ». Les formes signifiées en effet par le sujet et le prédicat sont infiniment distantes. Et puisque la proposition est affirmative, elle ne peut donc être que fausse. Oui, in materia remota, c'est-à-dire que dans la proposition affirmative, il y a un sujet commun, univoque. Tandis que là, il ne peut plus y avoir de sujet univoque entre Dieu et homme. Il n'y a pas d'univocité. Or, toute proposition implique une certaine univocité. C'est pour ça qu'il est fait allusion in materia remota, es falsa. Quand vous passez d'un genre à un autre genre, alors à ce moment, du fini à l'infini, passer du fini à l'infini fait que tout est faussé, tout n'a plus la même signification. Alors est-ce que vous pouvez encore dire Dieu est homme est une proposition et une énonciation vraie? Alors voici la réponse de saint Thomas. Il est écrit dans l'épître aux Philippiens, alors qu'il subsistait en la forme de Dieu, il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave et en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qui a paru en lui. Ainsi donc, celui qui est en la forme de Dieu est homme. Mais celui qui est en la forme de Dieu est Dieu. C'est donc que Dieu est homme. Vous voyez la subtilité qui est impliquée dedans. Reprenez le texte latin. Qui cum in forma dei esset, ex inanivit semet ipsum formam servi accipiens, in simultinem hominum factus, et habitu inventus ut homo, et sic ille qui est in forma dei est homo, sed ille qui in forma dei est Deus, ergo Deus est homo. Vous voyez donc que c'est tout simplement de rattacher cette proposition à ce qui est révélé. Ce qui est révélé est vrai. Donc si je peux rattacher cette proposition directement à ce qui est révélé, c'est vrai. In forma Dei est Deus. Être dans la forme de Dieu, c'est d'être Dieu. Donc ce qui est vrai pour in forma Dei est vrai pour Dieu. Donc je peux dire que Dieu est homme dans le Christ. Alors la conclusion va nous montrer quelque chose de plus précis, parce que ça, c'est vrai, c'était très très juste, mais ça ne précise pas le point de vue du point de vue logique. Cette proposition « Dieu est homme » est admise par tous les chrétiens, le consensus, intéressant de savoir ça, est admise par tous les chrétiens. Elle n'est pas cependant entendue par tous de la même manière. Quelques-uns, tout en l'autorisant, ne l'admettent pas selon la propriété des termes. Ce sont les manichéens. Pour eux, en effet, le Verbe de Dieu n'est pas véritablement homme, mais seulement par métaphore, en ce sens qu'il aurait assumé un corps imaginaire et que l'on peut dire de lui qu'il est homme, comme on le dit d'une statue de bronze qui représente un homme. De même, ceux qui ont prétendu que dans le Christ, l'âme et le corps n'étaient pas unis, n'admettaient pas qu'il fût véritablement homme, mais seulement en figure, en raison des éléments humains. Ces deux opinions sont inadmissibles. Elles sont contraires au mystère de l'union hypostatique. D'autres, au contraire, admettent que le Christ est véritablement homme, mais non véritablement Dieu. Selon eux, le Christ, qui est Dieu-homme, n'est pas Dieu par nature, mais seulement par participation, c'est-à-dire par grâce. En ce sens, nous disons que tous les saints sont des dieux. Le Christ le serait cependant d'une manière plus excellente à cause de la plénitude de sa grâce. D'après cette opinion, quand on dit « Dieu est homme », le mot « Dieu » ne signifie pas le Dieu véritable et réel. C'est l'hérésie de Photin qui a été combattue plus haut. D'autres encore donnent à chacun des termes de la proposition leur sens obvi, en reconnaissant que le Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Néanmoins, ils ne sauvegardent pas la vérité de l'attribution. C'est les trois possibilités, on voit très très bien. Et c'est très organisé. Saint Thomas montre bien les trois possibilités d'erreur. Néanmoins, ils ne sauvegardaient pas la vérité de l'attribution. Ils disent en effet que l'homme est attribué à Dieu du fait d'une certaine union qui se réalise entre l'un et l'autre par mode de dignité ou de maîtrise, ou même par mode d'amour ou d'habitation. C'est ainsi que Nestorius admettait que Dieu fut homme, ne signifiant par là rien autre chose que ceci. Dieu est uni à l'homme de telle sorte que l'homme est la demeure de Dieu, et lui est uni par amour et par participation de l'autorité et de la dignité divine. Ce qui pose dans le Christ deux hypostases ou deux suppôts tombe dans une erreur similaire, car il n'est pas possible de comprendre que deux réalités distinctes, sous le point de vue de suppôt ou de l'hypostase, soient attribuées proprement l'une à l'autre. Elles ne peuvent l'être que par métaphore ou pour autant qu'elles sont unies de quelque manière. Ainsi, nous disons que Pierre et Jean, du fait d'une certaine liaison qui existe entre eux. De telles opinions ont été réprouvées plus haut. Il résume tout au point de vue du langage. C'est pourquoi, conformément à la vérité catholique, nous supposons que la véritable nature divine est unie à une nature humaine véritable, et nous disons que cette proposition « Dieu est homme » est exacte en son sens propre, non seulement à cause de la vérité des termes « Dieu et homme », mais encore à cause de la vérité de l'attribution. Dans l'attribution, c'est le propre de l'attribution, il y a une certaine identité. Toute attribution implique une certaine identité. Donc il faut bien expliquer cette identité qui va se faire quand j'affirme Dieu est homme. Car le mot qui signifie une nature commune au concret peut être employé pour désigner un des suppôts appartenant à cette nature commune. Ainsi le mot homme peut être pris pour signifier tout individu humain. Le mot Dieu, étant donné son mode de signification, peut être pris pour la personne du Fils de Dieu, comme nous l'avons montré dans la première partie. Par ailleurs, on peut vraiment et proprement attribuer à tout suppôt d'une nature quelconque le nom qui signifie cette nature au concret. Attribuer par exemple à Socrate et à Platon le nom d'homme. Et donc, puisque la personne du Fils de Dieu à laquelle on peut substituer le nom de Dieu est suppôt de la nature humaine, il sera légitime d'attribuer le mot « homme » au mot « Dieu » pour autant que celui-ci signifie la personne du Fils. Donc vous voyez bien comment saint Thomas écarte ces trois opinions fausses qui soulignent l'impossibilité, selon la première objection, l'impossibilité d'identité entre les deux. Quand j'énonce quelque chose, d'une façon affirmative, je fais une union. Dieu est homme. C'est-à-dire qu'il y a une certaine unité qui doit exister entre Dieu et homme. Donc les objections montrent d'abord impossibilité du côté de Dieu, impossibilité du côté de l'homme. Et la troisième type d'objection, c'est-à-dire véritablement homme, véritablement Dieu, mais l'unité ne peut pas se faire parfaitement. L'unité se fait par participation, donc ça ne fait pas parfaitement. Et donc l'affirmation n'a plus toute sa force. Dieu est homme. Donc l'affirmation est relativisée. Elle n'a plus toute sa force. Alors, si je comprends le mystère, du moins si j'accepte et j'adhère au mystère de l'union hypostatique, je peux comprendre alors que cette affirmation « Dieu est homme » prend toute sa force. Parce qu'il y a le mystère de l'union hypostatique. Et je précise avant que Dieu et homme, qui sont indéterminés, je ne dis pas « le Christ est homme », mais Dieu implique le Verbe. Et le Verbe, en tant qu'il est incarné, il est homme. Et homme signifie, d'une façon concrète, une personne. Je ne pourrais pas dire Dieu et l'humanité, par exemple. Là, vous comprenez tout de suite pourquoi saint Thomas souligne le point de vue concret. Je ne peux pas dire Dieu et l'humanité. Si vous dites que Dieu et l'humanité, c'est faux comme proposition. Vous voyez ? Alors ça, il faut bien comprendre cette différence entre les deux. Et c'est pourquoi saint Thomas fait allusion au point de vue du terme concret. Si je dis Dieu est homme, oui. Je vais vous envoyer un petit papier pour dire si vous êtes d'accord avec telle ou telle proposition. Et quand vous dites Dieu et l'humanité, non. Pourquoi ? Parce que humanité et homme, ça a la même signification. C'est tout simplement la différence entre le concret et l'abstrait. L'abstrait, blanc-blancheur, homme-humanité. Ça veut dire la même signification. Ils ont la même signification, homme et humanité. Alors comment se fait-il que je puis dire Dieu est homme et je ne puis pas dire Dieu est l'humanité ? Alors qu'est-ce qu'il peut répondre ? Vous voyez qu'il s'agit d'une question de langage. Mais derrière le langage, il y a la pensée. Qu'est-ce qu'il y a ? Logique. C'est une question logique, ça. C'est de pure logique. Parce qu'en logique, on montre si le point de vue... C'est la question de la supposition. Oui. Donc c'est la question logique de l'attribution. Comment se fait-il que homme peut s'attribuer à Dieu en raison du mystère de l'union hypostatique, hein? C'est bien évident. Et comment l'humanité ne peut pas être attribuée à Dieu?
Il n'y a pas que la signification dans la norme, il y a aussi la supposition.
Mais c'est pour ça que je posais une question de supposition. Il y a la signification, et attention. Hein.
Le langage n'a pas, c'est pas uniquement la signification.
Attention, je dis la même signification. Vous pourriez m'objecter, non. Ça n'a pas la même signification. Ça n'a pas la même signification. Quand je dis homme, d'une façon concrète, qu'est-ce que je désigne ? Je désigne la réalité homme, c'est-à-dire une réalité qui implique corps et âme. Alors, homme. Quand je dis humanité de façon abstraite, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire ce par quoi l'homme est homme. Oh, ce par quoi l'homme est homme, c'est quoi? Est-ce que c'est la même réalité? Non. Ce par quoi l'homme est homme, c'est l'âme raisonnable. Ah oui, c'est évident.
L'humanité,
autrement dit, le concret implique le point de vue du tout et l'abstrait implique le point de vue de la partie. Oui, donc c'est la signification formalisée qui n'indique que la partie, tandis que la signification prise comme concret implique le tout. Oui, c'est la question du tout de la partie. Oui, la question de l'abstrait et du concret. Et c'est pour ça que je peux attribuer homme à Dieu, tout homme. Hein, vous voyez, saint Thomas fait allusion à tout homme, le point de vue du tout. La signification concrète implique le tout. C'est toute la signification de l'homme qui est attribuée à Dieu. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de l'humanité, ça prend quelque chose, justement, une modalité particulière qui fait que la signification est formalisée, je formalise par le point de vue abstrait. Je formalise et donc je ne prends plus le point de vue du tout comme tel, je prends ce qui formalise le tout. Et donc j'ai une attribution partielle, une partie seulement. C'est l'arbre rationnel. Ce par quoi l'homme est homme. D'un côté, je peux comprendre l'unité qui existe. Le problème de la supposition existe, il est derrière. Hein. Mais c'est d'abord la signification et pas le problème de la supposition ensuite. Dieu, sous petit 1, entend qu'il y a le Verbe. En tant que Dieu, implique le Verbe incarné. Alors je peux dire, Dieu sauvé. Pour le croyant. Je ne précise pas, si ce n'est pas précisé, mais ce n'est pas incorrect. Ce n'est pas un langage précis. Voilà ce que je peux dire. Ce n'est pas un langage précis, mais ce n'est pas un langage incorrect. Parce que de fait, le mystère, le Verbe est Dieu, et que le Verbe s'est incarné. Donc, Deus supponit, il supporte, supponit, c'est très difficile à traduire, hein. Un terme supponere, c'est-à-dire enveloppe dans sa signification et dans ce lieu, tel ou tel attribut. Alors, Dieu supponit homo. Tandis que non, non pas l'humanité. Parce que l'humanité est presque un point de vue partiel. Oui. Donc, c'est la question du concret et de l'abstrait. Alors, est-ce que je peux faire la même chose du côté du sujet ? Dieu est déité. Le sujet est toujours pris matériellement. Et donc, il est toujours pris de façon concrète. Oui. Donc, du fait même que j'ai dit Dieu, il est pris de façon concrète. Toujours. Le sujet, comme tel.
La déité est
elle. La déité est... Alors, est-ce que vous pouvez dire la déité? Je veux dire la déité d'âme. Saint Thomas dit, Deus et Deitas ont la même signification. Hein? parce qu'il s'agit de réalité première. Je peux dire pour toute réalité absolue que le concret et l'abstrait ont la même signification. Dieu et vérité ont la même signification. Vrai et vérité ont la même signification. Bon et bonté ont la même signification. Dès que je suis en face d'une signification absolue, le concret et l'abstrait ont la même chose. Alors, d'une certaine manière, déité ou Dieu, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, ça a la même signification. Donc, je pourrais dire la déité est homme. Est-ce que ça vous va quand vous dites la déité est homme ?
Non, parce que l'homme est redit de la déité, de l'essence divine.
Mais non, mais c'est la même signification, déité est homme. Attention, déité et Dieu, c'est la même signification.
Ça te va dans l'interprétabilité, quand il parle des noms concrets, il parle du surnom.
Ah, le nom concret, c'est Dieu. C'est sûr, le nom concret. Oui, mais attention, votre raison n'est pas juste, c'est ça que je souligne. Parce que Dieu, Deus et Deitas ont la même signification. Donc, alors, si c'est vrai pour Dieu, Dieu est homme, homme est. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Dieu est homme ? Je dis que Dieu subponit homo. Donc, il y a la signification de l'homme est incluse en Dieu par le mystère de l'incarnation. Par le mystère de l'incarnation, l'homme est impliqué dans le mystère de Dieu. Si je prends déité, déité a la même signification que Dieu. Donc il semblerait que homme doit être impliqué dedans.
La signification est impliquée pour elle. Et donc elle ne peut pas soutenir.
C'est ça. C'est la question que c'est pas faux, mais c'est pas correct. C'est différent. C'est pas correct comme chose, parce que le sujet est toujours plus concret. Et alors, on sent que c'est gênant. Oui, oui, on sent que c'est gênant pour nous. Pour nous, c'est gênant, parce que c'est un mode abstrait. Alors, de fait, le sujet est toujours concret. Pourquoi le sujet est toujours concret ? À cause de l'identification de la tribu au sujet. On ne s'identifie que dans un sujet concret. Je ne peux pas unir une forme à une autre forme. C'est toujours un sujet concret qui est capable de supporter, de supponere. L'abstrait non supponit. L'abstrait comme tel. Donc, dans sa forme abstraite, il n'est pas capable de porter. Vous voyez ici. Alors, je vois tout de suite la réponse à la première objection. C'est un très bon petit exercice, vous savez ça. Si on avait le temps, on le ferait. C'est comme séminaire, ce serait très intéressant. Parce que ça fait un... Comment vous faites très peu de logique, n'est-ce pas ? Ce sont des choses qui sont des lieux intéressants à voir. Parce que c'est une question de langage et de précision du langage. Ça n'apporte rien du tout au point de vue philosophique. Vous voyez, c'est au terme. Ça résume tout ce qu'on a dit. Donc, d'une certaine manière, ça n'ajoute rien du tout à tout ce que saint Thomas a dit précédemment. Mais ça, c'est une application pratique dans l'ordre du langage. Et une application dans l'ordre du langage pour permettre de voir comment nous pouvons transmettre aux autres une vérité précise. Alors, la première objection. Les formes signifiées, en effet, par le sujet et le prédicat sont infiniment distantes. Alors voici la réponse de saint Thomas. Quand deux formes diverses ne peuvent se trouver en un seul et même suppôt, la proposition que l'on établit alors est nécessairement en matière éloignée. C'est pas cette expression materia remota qui montre au fond l'équivocité. C'est l'équivocité qui est impliquée dans cette matière remota. Que l'on établit alors est nécessairement en matière éloignée, le sujet signifiant l'une de ces formes et le prédicat l'autre forme. Mais si deux formes peuvent se trouver en un suppôt unique, la matière de la proposition ne saurait être éloignée. Voyez, la matière de la proposition. Tandis qu'on mettra la matière, là il prenait la matière des différentes formes. La matière de la proposition n'est pas éloignée, donc on peut être dans la vérité. Si deux formes peuvent se trouver en un suppôt unique, la matière de la proposition ne saurait être éloignée. Elle ne peut être que naturelle ou contingente. Comme lorsqu'on dit « ce qui est blanc est musicien ». Quand vous dites « ce qui est blanc est musicien », vous désignez. Ce bonhomme qui est blanc, il est musicien. Vous voyez, tout ce qui est impliqué, vous le désignez, on comprend bien la chose. Ce qui est blanc est musicien. Ces deux formes-là ne sont pas unies dans l'identité. Qu'est-ce qui supponit, c'est celui qui est blanc, supponit, c'est cet homme, il peut être musicien. Mais ce qui est blanc est musicien, vous voyez, la correction de la chose.
C'est un peu comme ça qu'on parle.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est un peu comme ça qu'on parle.
Ah oui, quand on ne parle pas formellement. Quand on ne parle pas formellement, on est comme ça. Et que le langage, très souvent, n'est pas formel. Oui. Parce qu'on n'a pas assez pensé. Je crois que quand on pense, quand on réalise davantage, on voit mieux ce qui en est. Mais, or, la nature divine et la nature humaine, bien que très distantes, se trouvent du fait même du mystère de l'incarnation. Dans un seul suppôt. Et ni l'un ni l'autre ne le sont unis par mode accidentel, mais bien par elle-même, donc par mode de l'union hypostatique. C'est pourquoi cette proposition « Dieu est homme » n'est ni en matière éloignée, ni en matière contingente, mais en matière nécessaire, en matière naturelle, donc nécessaire ici. Et le prédicat « homme » n'est pas attribué à Dieu par accident, mais par soi, comme il le serait à la personne divine elle-même. Non pas que l'attribut convienne au sujet en raison de la forme signifiée par le mot « Dieu », mais en raison du suppôt qui est l'hypostase d'une nature humaine. Oui, ce que je disais tout à l'heure, ceci est vrai parce qu'on présuppose que Dieu implique le Verbe qui a assumé la nature humaine. Donc ce n'est pas en raison de la signification du mot Dieu, mais en raison de l'hypostase, parce que ça fait appel au Verbe qui a assumé la nature humaine. Alors si vous avez beaucoup de courage, lisez toute cette question 16, ça en vaut la peine, pas maintenant peut-être, hein, mais pendant les vacances, quand vous aurez beaucoup de courage, que vous serez un tout petit peu reposé, vous ferez ça. Et puis vous releverez les difficultés que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a des difficultés. Je suis persuadé que quelqu'un qui ne connaît pas très bien la logique, devant ça, il se dit, mais je se casse la tête, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, il y a des termes un peu particuliers, mais c'est utile. Hein. C'est pas à dire, on peut sauter ça, ça n'a aucune signification. Non, la correction du langage. Quand nous pensons bien, nous devons l'énoncer bien et correctement. Et c'est important, surtout pour des prédicateurs. Parce que si Dieu de la chair vous dit de grosses bêtises, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui est blanc et musicien. Prenez, si vous dites ça, Dieu de la chair. Ceux qui est blanc et musicien, c'est un petit peu gênant. Parce que les gens comprendront immédiatement des tas de choses. C'est ce qu'il fait dire de temps en temps. Mais il dit des hérésies, il dit des choses qui ne sont pas justes. Des gens qui sont un peu formés, qui sont en face d'un prêtre qui n'a pas beaucoup de théologie. Alors il y a ses fantaisies, la fantasia. Hein. Et la fantasia, ce qui est blanc est musicien. Vous voyez, ça c'est la fantasia.
Alors, l'uniforme,
alors qu'est-ce que vous direz ? Alors, l'uniforme, vous lui direz, l'uniforme est un homme.
Maintenant.
Vous voyez, et c'est très vrai, c'est la manifestation.
Maintenant, on discerne plus que c'était un képi, ou alors. Mais avant, on ne discerne pas qu'un képi.
Oui, c'est. On dira 22. À ce moment-là, vous désignerez quelque chose. Alors, peut-on dire avec vérité l'homme est Dieu ? J'inverse. Alors, voici saint Thomas. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, c'est d'eux que le Christ est issu, selon la chair. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni à jamais. Mais le Christ, selon la chair, est homme. L'on peut donc dire l'homme et Dieu. Une fois admise la vérité des deux natures, divine et humaine, et leur union dans la personne et l'hypostase. La proposition « l'homme est Dieu » est aussi vraie à proprement parler que cet autre « Dieu est homme ». Le mot « homme », en effet, peut être pris pour désigner toute hypostase de la nature humaine. On peut donc s'en servir pour signifier la personne du Fils, puisque celle-ci est l'hypostase d'une personne, d'une nature humaine. Or, il est manifeste que le mot « Dieu » peut être attribué vraiment et proprement à la personne du Fils, ainsi que nous l'avons démontré dans la première partie. On peut donc dire, en toute vérité, « l'homme est Dieu ». Alors là, voyez, vous pourriez vous poser, vous amuser, hein. Vous dites « la déité est l'homme », est-ce que vous pouvez dire « l'homme est déité » ? Est-ce que vous pouvez dire « l'homme est Dieu » ? Est-ce que vous pouvez dire que l'homme est déité ? Puisque Dieu et déité ont la même signification. Là, il n'y a pas partie et tout. Il n'y a pas la partie et tout. C'est selon le modus significandi. Selon le modus significandi, ça ne va pas. Vous voyez ? C'est comme ici. Mais la signification elle-même est bonne. Puisque vous pouvez dire l'un ou l'autre. Mais ça risque toujours, en raison de notre manière de connaître, ça risque de fausser. C'est pour ça que saint Thomas distingue toujours le mot doux significandi et la signification. Peut-on dire du Christ qu'il est homme dominical ? Alors là, vous voyez, ça c'est tout à fait extraordinaire. Il semble que l'on peut employer une telle expression, vous ne l'avez jamais employée. Saint Augustin n'écrit-il pas « Soyons avertis que tous les biens qui se trouvèrent dans cet homme dominical, c'est homo dominicus, font l'objet de notre espérance. Et en parlant ainsi, c'est au Christ qu'il se réfère. C'est donc que le Christ est homo dominicus. » Alors, réponse de saint Thomas. Saint Augustin écrit au livre des Rétractations. Je ne crois pas qu'il soit possible d'appeler Jésus-Christ homme dominical, puisqu'il est Seigneur même, puisqu'il est le Seigneur même. Alors, voici saint Thomas. Ainsi que nous l'avons déjà noté, quand nous parlons de cet homme qui est le Christ Jésus, nous désignons un suppôt éternel, à savoir la personne du Fils de Dieu. Car les deux natures ont un suppôt unique. Or, les termes « Dieu » et « Seigneur » sont attribués essentiellement à la personne du Fils de Dieu. On ne doit donc pas les lui attribuer sous une forme dérivée, car ce serait contraire à la vérité. Et puisque « dominical » dérive de « dominus », qui signifie « Seigneur », on ne peut donc pas dire à proprement parler que cet homme, c'est-à-dire le Christ, est dominical, bien plutôt qu'il est Seigneur. Si au contraire, en parlant de cet homme qui est Jésus-Christ, on entendait signifier un suppôt créé, comme le font ceux qui placent deux suppôts dans le Christ, l'on pourrait dire alors qu'il est tel homme, on pourrait dire alors qu'un tel homme est dominical. Parce que élevé à la participation d'honneur divin, c'est précisément ce que prétendaient les Nestoriens. Enfin, l'on ne dit pas que la nature humaine est essentiellement Dieu, mais qu'elle est déifiée du fait non pas de son changement à la nature divine, mais de sa conjonction à cette même nature dans une seule hypostase. Vous voyez bien la raison que donne saint Thomas. Tout ce qui est attribué au Christ est premier. Je ne peux pas attribuer quelque chose qui est second, qui implique donc une certaine imperfection, une certaine dépendance, une certaine référence. Et alors c'est intéressant au point de vue du vous voyez, dominus dominical, hein, c'est dominicus, c'est le point de vue donc de la déviation en quelque sorte, et c'est ça qui est intéressant à voir. Alors voyons tout de suite, hein, maintenant, pour ne pas nous attarder, parce que nous allons autrement regarder toute la question 16, et ce n'est pas la peine. C'est intéressant, lisez-le. Hein. Ça, c'est... On ferait passer des examens là-dessus très rapidement. Ça serait... On verrait tout de suite si on a pigé quelque chose. On mettrait 3 formules. Vous direz oui ou non. Alors, à ce moment-là, vous invoquerez le Saint-Esprit pour dire oui ou non. Mais le Saint-Esprit ne veut pas remplacer votre intelligence. Il convertit votre cœur, mais pas votre intelligence. Donc, il n'aime pas la paresse. Il ne favorise pas la paresse. Donc, il faut... Ce serait... C'est pas bien. Le Christ, en tant qu'homme, est-il hypostase ou personne? Ce qui convient à tout homme convient au Christ, en tant qu'il est homme. Car, ainsi qu'il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, aux Philippiens, il est devenu semblable aux hommes. Or, tout homme est une personne, c'est donc que le Christ, en tant qu'homme, est une personne. C'est très intéressant de voir que saint Thomas termine cette question par cet article-là, c'est pour ça que je le prends, parce que ça fait le métaxu avec la question suivante, voyez. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder ça. Alors, voyez la réponse de saint Thomas. Donc, article 12, hein. Question 16, article 12. Le Christ, en tant qu'homme, n'est pas une personne éternelle. Si donc il est une personne en tant qu'homme, il s'ensuit qu'il y aura en lui 2 personnes, l'une temporelle, l'autre éternelle. Ce qui est faux, nous le savons. Voici le raisonnement de saint Thomas. Comme nous l'avons déjà dit, le mot « homme » placé en apposition peut être pris soit pour le suppôt, soit pour la nature. Vous voyez la différence, suppôt et la nature. Le suppôt, c'est ce qui existe. La nature, pas nécessairement. Tandis que le suppôt, c'est ce qui existe. Et donc, c'est ce qui est capable de ramener à l'identité. L'identité, c'est la réalité existante. Hein. L'identité s'appuie sur la substance. Et la substance seule existe, au sens propre. Puisque seule elle subsiste, donc seule elle existe. Et donc le suppôt implique toujours le point de vue de la substance. C'est par mode de substance qu'il subsiste et qu'il est capable d'identifier à lui-même, de ramener à l'unité tous les attributs qu'on lui donne. Comme nous l'avons déjà dit, le mot « homme » placé en apposition peut être pris soit pour le suppôt, soit pour la nature. Quand donc on dit le Christ en tant qu'homme est une personne, si l'on prend le mot « homme » au sens de « suppôt », il est évident que la proposition est vraie, car le suppôt de la nature humaine n'est pas autre chose que la personne du Fils de Dieu. Mais si l'on entend signifier la nature, alors on peut vouloir dire qu'il convient à la nature humaine d'être dans une personne. Et cette manière de parler est exacte, car tout ce qui subsiste dans une nature humaine est une personne. Ou bien l'on entend que la nature humaine doit avoir dans le Christ une personnalité propre, causée par les principes mêmes de cette nature. Et sous ce rapport, le Christ en tant qu'homme n'est pas une personne, car la nature humaine n'existe pas par elle-même, séparément de la nature divine, ce qui serait requis pour qu'elle fût une personne. Le mot « personne » implique toujours un tout, implique donc toujours une autonomie. Et donc, quand vous dites « le Christ », quand vous prenez cette proposition « Christus, le Christ, en tant qu'homme, est-il l'hypostase ? » Le « en tant que » formalise, normalement. C'est pour ça que normalement, c'est jamais le suppôt. Le « en tant que » appelle la nature. Donc, le Christ, en tant qu'il assume la nature humaine, et dans sa nature humaine, est-il une hypostase ? Non, il n'est pas une hypostase, en tant que nature humaine. Parce que la nature humaine dans le Christ n'a pas de n'a pas d'hypostase propre, n'a pas de personne propre. Oui. Et c'est pour ça que c'est mal parlé que de dire le Christ en tant qu'homme est une hypostase. Ça veut dire, on peut le dire, il faut essayer de préciser, le plus loin possible, toutes les concessions que font saint Thomas. Si vous voulez dire ça, vous voyez, quand vous faites une critique d'un livre, si vous voulez dire ça, très bien, Mais si vous parlez avec précision, non. Si vous voulez dire ça, c'est pour un langage qui n'est plus du tout logique, un langage symbolique. Ah, très bien, c'est très bien. Mais si vous voulez prendre un langage précis, non. Oui. Alors le « en tant que » est toujours une formalisation. C'est le « est » grec. Hein. Le « en tant que » formalise. Si « en tant que » formalise, et que vous prenez le mot « personne », vous regardez la nature. Alors maintenant, nous allons passer vers quelque chose de plus intéressant. De très intéressant. Vous voyez, c'est un retour. C'est après avoir compris, après avoir du moins, essayé de préciser ce qu'est le mystère de l'union hypostatique. Jusqu'ici, on peut dire qu'on a regardé le mystère de l'union hypostatique et ses conséquences immédiates, le point de vue de la plus exactement, pas ses conséquences immédiates, mais le caractère propre de la nature assumée, ses qualités et ses défauts. Maintenant, nous regardons la propriété. Vous voyez, en métaphysique, Aristote dit ce qui est considéré du point de vue de l'être et le point de vue de l'un. Les rapports entre l'être et l'un. Et pour Aristote, à la différence de Platon, l'un est propriété. C'est pour ça qu'il dit que l'un est acolyte de l'être. Partout où l'être est, cet être est un. C'est l'acolyte. C'est-à-dire ce qui suit. Pas ce qui précède, mais ce qui suit. Ce qui précède au point de vue de la connaissance. C'est l'un que nous découvrons en premier lieu parce qu'il manifeste comme toute propriété. Mais c'est la propriété. La propriété suit. Ça présuppose l'être. À la différence de Platon, qui lui dit que l'un est au-dessus de l'être. Il faut toujours se rappeler ça. Alors vous voyez qu'ici, saint Thomas est tout à fait dans un style aristotélicien. Après avoir essayé de saisir profondément ce qu'est le mystère du Christ dans le mystère de l'union apostolique, il se pose la question de l'unité envisagée du point de vue de l'être. Il nous faut voir maintenant ce qui, d'une manière générale, convient au Christ sous le rapport de l'unité. Les points de vue plus spéciaux, en effet, ayant trait à l'unité ou à la pluralité dans le Christ, sont envisagés ailleurs. C'est ainsi que nous avons déjà montré qu'il n'y a pas dans le Christ qu'une seule science, et que nous établirons plus tard la même preuve au sujet de sa génération. Pour l'instant, nous étudions l'unité du Christ sous le rapport de son être, d'abord, puis sous le rapport de son vouloir, et enfin sous le rapport de son opération. Très, très curieux, comme ordre. Hein. Réfléchissez bien à ce qu'il a vu à propos de la connaissance et de la puissance. Vous voyez que le vouloir ici apparaît du côté de l'unité. C'est très curieux. Il ne parle pas ici sur le rapport de la connaissance. On va essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre l'ordre que suit saint Thomas. Il ne faut pas uniquement le prendre passivement, il faut essayer de comprendre que pour lui, saint Thomas ne cesse de répéter, le propre du sage, c'est d'ordonner. Autrement dit, il faut connaître pour ordonner. Si on ne connaît pas, on n'ordonne pas. Enfin, comme je te pousse. Puissant. Pour tout, c'est comme ça. Aussi bien pour l'ordre du fat chéré, pour la cuisine, que pour le point de vue de la pensée. Il y a un ordre. Si vous faites d'abord vous précipiter pour cuire ce qui sera normalement en dernier, ça n'ira pas. N'est-ce pas ? Il y a un ordre. Un ordre dans la cuisson. Oui. Il y a un ordre dans la construction, il y a un ordre dans la pensée. Et le propre du sage, c'est d'ordonner. Et donc, quand saint Thomas ordonne dans la somme les diverses questions théologiques, pour lui, c'est capital. Ce n'est pas une question seconde. C'est une question importante. Ce n'est pas quelque chose de second. Donc, sur le premier point, deux questions se posent. Le Christ est-il une unité ou une dualité ? Y a-t-il dans le Christ unité d'être ?
Ce qu'on va dire en anglais, quand même, la connaissance concerne plus directement la nature de la personne, alors que l'amour, comme on dit toujours, concerne le sujet, donc oui. L'unité de sa vie. Donc,
toujours. Le point de vue de la bonté, comme le point de vue de la volonté, est lié à l'essai.
Non pas directement à la nature.
Non, à l'essai. Donc au suppos. Au sujet.
C'est la raison fondamentale
pour laquelle la nature, la connaissance est prise du côté de la nature, donc la structure même d'un être. Enfin, c'est ce qu'Aristote dit tout le temps quand il dit que les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que ça structure plus profondément, tandis qu'au contraire, vouloir est pris et opération sont prises du côté de l'essai, du côté du suppos. Opération, c'est plutôt essai. Et le point de vue du vouloir suit aussi le point de vue de l'essai. Alors, le Christ est-il une unité ou une dualité ? Nous lisons dans saint Augustin, la forme de Dieu ayant pris la forme d'esclave, l'un et l'autre est Dieu en raison de Dieu qui assume. L'un et l'autre est homme en raison de l'homme assumé. Mais cette expression « l'un et l'autre » implique une dualité. C'est donc que dans le Christ, il y a une dualité.